Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie connue depuis l'Antiquité. Pourtant, aujourd'hui encore, la tuberculose reste la maladie infectieuse qui entraîne le plus grand nombre de décès dans le monde. Une véritable hécatombe, 4400 morts chaque jour à l'échelle planétaire. Mais au regard des disparités régionales, peut-on vraiment parler d'échelle planétaire, puisque 8 pays rassemblent à eux seuls les 3/4 des cas mondiaux. L'Inde, l'Indonésie, la Chine, ces 3 géants démographiques d'Asie sont les 3 pays les plus touchés. L'on retrouve au 5e et 7e rang 2 pays africains, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et au-delà de ce constat d'inégalité régionale face à la tuberculose, la maladie reste aussi étroitement associée au contexte socio-économique. Disparité que l'on retrouve pour les manifestations les plus redoutables de cette infection bactérienne, les formes multirésistantes face auxquelles les traitements conventionnels se révèlent inefficaces. 3 pays, Inde, Chine, Russie, concentrent la moitié des cas mondiaux. Et sur ce front des cas multirésistants, une nouvelle encourageante, il est possible de réduire de moitié la durée du traitement, espoir thérapeutique qui ne doit pas faire oublier que la communauté mondiale s'accorde pour dire que les moyens engagés dans le cadre de la riposte à la tuberculose, ces moyens restent largement sous-financés. Et on va le voir au cours de cette émission, plus le diagnostic de la tuberculose est précoce, plus le risque de transmission est limité. On retrouve en ligne de Montpellier le docteur Christian Liénard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue, épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et vous avez, docteur Liénard, coordonné la publication par PLOS Médecine d'une série d'articles qui traitent des dernières avancées dans le cadre de la recherche clinique. Avec nous en studio, docteur Catherine Ewison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la tuberculose chez Médecins Sans Frontières et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Burkina Faso le professeur Gisèle Badoum, chef de service adjointe du service de pneumologie au CHU Yelgado de Ouagadougou. En fin d'émission, à l'occasion du centenaire de la création de la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, nous allons retrouver le président de la Croix-Rouge française, Jean-Jacques Eledjam. Croix-Rouge qui organise jusqu'à demain à Cannes, dans le sud de la France, une COP humanitaire pour alerter sur l'impact sanitaire du réchauffement climatique.
Priorité santé sur RFI.
Alors j'ai cité tout à l'heure, docteur Catherine Ewison, quelques-uns de ces chiffres très spectaculaires. Hein, lorsque l'on parle de la tuberculose, l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, mais il faut aussi souligner que le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis en moins de 20 ans de sauver des dizaines de millions de vies. Il y a donc un traitement, il y a donc une prise en charge. Ça veut dire qu'il est très important d'identifier les cas au plus tôt et d'engager dans ce cas-là des prises en charge de façon extrêmement précoce.
Oui, tu te fais pas contre. Le diagnostic de la tuberculose n'est pas si facile que ça. Si on compare ça à la VIH, par exemple, ou un test rapide, facile à faire, même à la maison, pour le diagnostic de tuberculose, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir un échantillon, il faut faire les tests assez difficiles à faire.
Échantillon de crachat et donc pas de sang, pas comme le VIH-SIDA que vous venez de citer.
Exactement, de sang ou d'autres
fluides.
Fluides ou même on peut utiliser des échantillons de peau ou os. Ça dépend d'où on trouve la tuberculose. Mais ça nécessite ensuite une préparation et les tests qui sont faits dans le laboratoire parfois assez compliqué, mais surtout pas comme le test pour le VIH au côté du lit de patient. Donc c'est toujours difficile à diagnostiquer la tuberculose.
Est-ce qu'on peut parler de population, de catégorie particulièrement vulnérable, docteur Ewison?
Oui, tout à fait. C'est le genre le plus marginalisé qui habite dans les situations précaires. en proximité de gens avec le problème de nutrition, qui sont malnourris. Les gens qui ont des problèmes de immunologique, hein. C'est par exemple les gens confectés avec le VIH.
Alors fragilité, précarité, marginalisation, et puis ces disparités régionales, hein. J'ai fixé les choses en introduction, 45% des nouveaux cas en Asie, 25% des nouveaux cas sur le continent africain. Pourquoi justement cette géographie si particulière, docteur Ewison, de la tuberculose?
Oui, c'est très intéressant. Il y a plusieurs facteurs. En Afrique, c'est le taux de la confection avec le VIH qui joue beaucoup sur le nombre de cas. En Asie, il y avait toujours beaucoup de cas en Asie. Un tiers des cas mondialement sont en Inde. C'est aussi en fonction de la taille de la population là-bas. Il y a des facteurs aussi comme la nutrition qui joue dedans. Mais surtout, c'est les conditions de vie. Et si on regarde le nombre de cas très, très bas qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis, c'est surtout lié avec les bonnes conditions de vie.
Bonnes conditions de vie, accès au traitement, un bon système de soins également qui
Exactement,
est très important.
Oui.
Alors, on vous retrouve en ligne de Montpellier, docteur Christian Liénard. Un autre point important, hein, quand on parle de la tuberculose, c'est qu'on distingue deux formes, forme dormante, forme déclarée. On parle, ce sont les termes officiels, hein, quand on est médecin, tuberculose latente, tuberculose maladie. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux pour que les auditeurs comprennent bien?
Alors, faire la distinction entre les deux, c'est effectivement très important. Il faut d'abord essayer de comprendre ce que ça recouvre. C'est que la tuberculose a cette particularité par rapport aux autres maladies infectieuses, d'avoir un temps de latence entre l'infection et la déclaration de la maladie qui peut être éminemment variable. Dans la plupart des maladies infectieuses, on est infecté, il y a une période dite d'incubation qui peut être dans les maladies virales assez courte, hein, vous savez, 2-3 jours pour la grippe ou pour la rougeole, etc. Et la tuberculose, en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut prendre de quelques semaines à plusieurs années. C'est-à-dire que le microbe responsable de la tuberculose, lorsqu'on est en contact avec une personne qui tousse et qui excrète en toussant des bacilles, hein, les responsables de la tuberculose, et qu'on inhale, une personne en contact inhale ces bactéries, ces bactéries peuvent aller se loger dans un endroit du poumon et rester dormante, comme vous avez dit, hein, c'est-à-dire avec une activité très réduite, comme si elles hibernaient, et rester là comme ça pendant des mois, voire des années, et se sortir de leur état d'hibernation pour se remultiplier à l'occasion soit d'une nouvelle infection, soit, comme le disait le docteur Wilson, en cas de diminution des défenses immunitaires, comme on a par rapport au VIH, en cas de maladies associées, comme le diabète, dont on sait qu'il favorise la tuberculose, en fonction de l'âge, puisque l'âge va s'accompagner de diminution des défenses immunitaires et des capacités de défense immunitaire. Donc tous ces facteurs vont entrer en jeu pour déterminer ou non le passage de l'infection latente, comme vous avez dit, c'est-à-dire le fait d'avoir le bacille quelque part dans le poumon, mais sans la maladie, et le passage à la maladie.
Alors
la difficulté...
Oui. Mmh. Oui, allez-y, excusez-moi.
Oui, la difficulté, c'est que la maladie, on sait la diagnostiquer, on prélève de l'expectoration, hein, le crachat du patient, qu'on soumet sous un microscope, et comme le docteur Ewison a dit, ça peut être difficile, c'est pas toujours très sensible. On a maintenant des techniques nettement meilleures, hein, qui reposent sur le séquençage, sur le fait de trouver le matériel génétique de la bactérie, hein. L'ADN de la bactérie, avec des nouvelles techniques moléculaires, une machine qu'on appelle le Expert, qui ressemble un peu à une machine à la Nespresso, comme ça. On prélève le crachat du patient, on le prépare un peu, on le met dans une cartouche, et au bout de 100 minutes, on a le diagnostic de la tuberculose. Ce sont des machines qui sont assez extraordinaires, mais malheureusement coûteuses et qui ont besoin d'électricité, donc on ne peut absolument pas mettre dans les niveaux les plus périphériques, au niveau du point de contact, du premier point de contact avec le patients, surtout dans les régions rurales. Donc ça, c'est pour le diagnostic de la maladie. Maintenant, pour l'infection, ça serait idéal de pouvoir la diagnostiquer avec sécurité et avec garantie, parce que là, on pourrait immédiatement savoir qui peut être à risque de développer une maladie et mettre un traitement qui serait un traitement en fait beaucoup plus court que le traitement de la maladie tuberculose. Alors il existe des moyens diagnostiques actuels, mais qui sont pas très simple, qui ne sont pas totalement garantis, dont l'efficacité est variable en fonction de l'endroit où on se trouve. Ces tests de l'infection tuberculose latente, donc du fait de savoir si la personne a quelque part dans le poumon un bacille qui est dormant, qui est en hibernation, on y arrive beaucoup mieux dans nos pays où il y a peu de circulation du germe dans la communauté par rapport à l'Afrique, principalement, ou les régions tropicales, où il y a plus de circulation. Et donc, ces tests, qu'on appelle les interférons, sont des tests qui sont plus difficiles à manier.
Alors, une fois que ce diagnostic est posé, on a donc dans l'esprit commun tuberculose, poumon, cette association. Pourtant, docteur Catherine Wilson, on va avoir les auditeurs tout à l'heure, on va voir, hein, c'est effectivement souvent ces formes pulmonaires dont il est question, mais il peut y avoir d'autres manifestations. C'est pour ça que tout à l'heure vous nous disiez, il peut y avoir d'autres prélèvements, comme des prélèvements de peau ou autre. Alors, quelle autre partie de l'organisme peut être touchée par la tuberculose?
Tout part du cou, en fait. De cerveau, le cœur, le abdomen, les os, le peau.
La bactérie peut se loger n'importe où, le bacille peut
Exactement.
Se loger n'importe où.
Oui.
Alors justement, est-ce qu'en fonction de la localisation, le traitement va varier ou c'est de toute façon des antibiotiques, une combinaison d'antibiotiques?
Le plus important, c'est de trouver le traitement adapté à la souche de la tuberculose. C'est souvent pour ces formes à haut du poumon.
Oh, extra-pulmonaire.
Extra-pulmonaire, exactement. C'est difficile d'avoir un échantillon pour confirmer la souche. Mais en général, soit c'est pulmonaire ou extra-pulmonaire, le traitement est la même durée, sauf pour certaines formes comme le os et d'autres qui sont un petit peu plus longues.
Un petit peu particulières.
Ouais.
Alors pour une forme, on va dire, normale de tuberculose, hein, donc on n'est pas dans un cas multirésistant, on est plutôt dans une forme pulmonaire. Docteur Christian Lienhardt, à quoi ressemble ce traitement?
Alors le traitement est très bien codifié depuis plusieurs années, depuis maintenant près de 40 ans. Il repose sur une combinaison de 4 antibiotiques qu'on donne pendant 6 mois. En fait, c'est 4 antibiotiques pendant 2 mois, suivis pendant 4 mois de 2 antibiotiques, parfaitement codifiés, répertoriés. On connaît les molécules, on connaît les doses. C'est un médicament qui est parfaitement accessible dans la mesure où les molécules maintenant sont produites, les produits sont produits de manière générique et le coût est au maximum de 60 à 70 dollars par traitement pour 6 mois. Donc c'est un traitement efficace, très efficace, qui lorsqu'il est bien donné, et surtout bien suivi, c'est-à-dire pris par le patient pendant les 6 mois, permet d'avoir une garantie de succès très importante de plus de 90%.
6 mois de traitement, c'est long. Est-ce qu'il y a des examens intermédiaires? Et à la fin, docteur Lienhardt, comment est-ce qu'on vérifie l'efficacité de ce traitement? Docteur Lienhardt, est-ce que vous êtes toujours
Allô
avec nous? Oui. Je disais, est-ce qu'il y a des examens intermédiaires? Et comment on vérifie l'efficacité en fin de traitement?
Alors, en fin de traitement, en général, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de 2 mois, puisqu'on a donné 4 antibiotiques, on va vérifier s'il est valable et valide de passer à 2 antibiotiques. Donc, on va refaire un examen, comme à l'origine, hein, pour prendre les crachats et voir si ça a été négativé ou pas, c'est-à-dire si on retrouve à l'examen des bacilles responsables de la tuberculose. Et on fait de même à la fin du traitement, à 6 mois. Donc, normalement, on vérifie 2 fois, donc au 2e mois et au 6e mois. Et la présence de bacilles montre que le traitement n'a pas été efficace. Mais en général, au bout de 6 mois, c'est négatif. Le traitement est efficace et le patient peut passer, peut repenser une vie tout à fait normale.
Docteur Catherine Wilson, tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué la présence conjointe, on dit comorbidité dans le jargon médical, VIH-SIDA, tuberculose. Comment ça se passe en général? C'est quand on a détecté un VIH, on fait des examens complémentaires pour voir s'il y a tuberculose ou qu'à inverse, quelqu'un qui a des manifestations pulmonaires, qui on lui dit vous avez la tuberculose, on va vous dépister pour voir si conjointement vous avez le VIH. Les deux cas se présentent ?
Exactement, et c'est une obligation en fait. Les gens avec les deux maladies, ils ont beaucoup plus de risques d'avoir le problématique pendant le traitement. Donc, il faut savoir au début s'ils sont affectés par les deux en même temps.
Et peut-être un accueil de la maladie VIH qui est beaucoup plus difficile à accepter, alors que si l'on regarde dans les faits, peut-être qu'à certains égards, la tuberculose est plus dangereuse que le VIH contre qui les antirétroviraux peuvent agir de façon très efficace.
Oui, exactement. En certains cas, le médicament pour la tuberculose ne marche pas du tout parce que le souche a développé ce qu'on appelle une résistance. Ça veut dire que ça ne marche plus avec ces médicaments et ça rend la tuberculose très, très difficile à traiter. En même temps, si on peut diagnostiquer précocement et cibler bien le bon traitement, on peut avoir les bons résultats. C'est vrai. Les patients qui sont sur un traitement pour le VIH, ils peuvent bien prendre les deux traitements en même temps sans problème.
Avec ce chiffre, aujourd'hui, le tiers des décès chez les personnes porteuses du VIH-SIDA, eh bien, le tiers de ces décès, justement, c'est lié directement à la tuberculose. Alors, on va aborder tout à l'heure la question de la recherche, bien sûr, parler davantage de ces formes multirésistantes de tuberculose, mais tout de suite, on donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité santé sur RFI.
Et l'on part tout de suite pour la République démocratique du Congo, retrouvé à Kinshasa, William. Bonjour William.
Bonjour madame.
On vous écoute. Allez-y.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, c'est monsieur William, je vis à Kinshasa en RDC. Je voudrais intervenir par rapport au cas de la tuberculose, puisque moi-même j'ai souffert de la tuberculose en 2001. En tout cas, c'était une maladie très grave. J'avais perdu le poids, ma peau était devenue pâle. Les gens même me suspectaient du sida. Mais quand ils sont partis à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, on a trouvé que j'avais la tuberculose pulmonaire disséminée à gauche. Donc, c'était du côté gauche. Vraiment, c'est devenu très grave. Et j'avais suivi mon traitement dans un hôpital où on a pris soin gratuitement. Mais à la sortie, j'étais bien. Et 15 ans après, en 2016, j'avais commencé à sentir des douleurs, toujours au niveau gauche, du côté gauche. Bon, je suis rentré à l'hôpital, on a fait la radio, on a trouvé que les poumons gauche étaient atélectasiés, donc ça ne pouvait plus fonctionner, et puis c'est le poumon droit qui marchait. Donc le poumon droit doit prendre en charge toute la partie, même la partie gauche, c'est le poumon qui doit supporter. C'est pourquoi j'ai senti des douleurs. Les poumons droits devaient se tirer du côté gauche pour prendre en charge la respiration du côté gauche. Et les médecins m'ont dit que c'est cas, en tout cas, je vais vivre comme ça jusqu'à la mort. Donc, c'est une douleur à vie. Cette douleur est devenue périodique et à tout moment, ça revient, ça part, ça revient, ça part. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de médicaments qui peuvent m'aider à alléger ces douleurs. Ou soit à réactiver les cellules mortes dans le corps. Puisque pour le moment, je ne vis qu'avec un seul poumon.
Excusez-moi, William, quand vous parlez d'une douleur, c'est quoi exactement? C'est une sorte de pression? C'est qu'à un des moments, vous arrivez mal à respirer? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette douleur?
Bon, selon les douleurs, ce sont des douleurs très fortes à l'intérieur, au côté gauche jusqu'au niveau du thorax. Alors, les médecins m'ont dit, du fait que les poumons gauche ne fonctionne plus, oui. Le poumon est devenu vide. C'est l'air qui tourne là-bas qui fait en sorte que ça puisse pénétrer dans d'autres cellules.
Est-ce que cette douleur, par exemple, elle vous empêche de dormir? C'est quelque chose qui perturbe votre sommeil ou c'est que lorsque vous êtes en activité que vous la ressentez?
Bon, ça m'arrive souvent lorsque je suis stressé. Hein. Vous savez, moi, je travaille dans une ONG qui lutte aussi contre le VIH et la tuberculose. Donc, on travaille sous stress. Quand je suis trop stressé, alors je commence à sentir des douleurs énormes dans le corps. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas aussi de dormir. Sauf que, comme les médecins m'ont dit, je vais vivre avec, donc je me suis habitué. Au début, ça me faisait peur, mais maintenant, ça ne me fait plus peur. Même si j'ai des douleurs, je peux faire tout. Mais moi-même, je supporte ces douleurs-là. Je sais déjà la cause des douleurs.
Vous restez actif. Docteur Catherine Wilson, ce qu'on entend, William, donc ce qu'on disait tout à l'heure, des traitements qui marchent, même si, lui, il a de lourdes séquelles, puisqu'il a perdu la capacité pulmonaire. Donc, l'un de ses poumons, on va dire simplement, est hors service. Oui. Et il en ressent des douleurs. C'est quelque chose que vous entendez fréquemment en consultation?
Oui, en fait, c'est très bien. Bonjour, William. Très bien que vous parlez de ça parce que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup. C'est les séquelles après. Et en fait, énormément de gens, ils ont les séquelles après. Un manque de capacité respiratoire, mais aussi le douleur, comme vous décrivez. Et c'est pas beaucoup adressé. On est tellement, prise sur la prise en charge de patients, essayer de combattre cette maladie, cette épidémie, qu'on oublie que les gens qui vivent avec
après,
les,
après
avec les séquelles. Et c'est quelque chose, on se rend compte plus en plus maintenant. Malheureusement, il n'est pas énormément de choses à faire. Vous faites exactement ça qu'il faut faire. Continuer à utiliser vos poumons autant possible pour que ça diminue un peu les effets sur la respiration. Et pour le douleur, c'est une question à adresser le douleur elle-même. Mais malheureusement, la séquelle est quelque chose de très important suite à une tuberculose. C'est pourquoi c'est très important de diagnostiquer le plus tôt possible.
Pour limiter ces séquelles. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est des encouragements, William, et puis vous dire bravo parce que continuer votre activité, puis surtout de continuer en donnant votre temps pour les autres dans cette ONG, c'est super. On vous souhaite une très belle journée à Kinshasa et on va partir pour Madagascar. Île Sainte-Marie où Thierry est en ligne. Thierry, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Thierry.
Oui, j'étais diagnostiqué en tuberculose il y a 2 ans passés. C'était à partir de crachats que j'ai fait les tests. Et c'est après que je suis passé directement dans un hôpital public parce que les hôpitaux publics prennent en charge les maladies de tuberculose sans frais et tout ça, c'est gratuitement. Mm-hmm. Après ça, le docteur a déjà dit tout simplement que mon tuberculose est dans une phase première, tout simplement. C'est pas que dans une phase, troisième phase. Alors, il m'a donné des traitements oraux qu'il faut prendre tous les jours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour éviter le problème d'estomac et autre chose pour que ça travaille bien les médicaments. Et il m'a dit tout simplement à propos de tout ça que il faut que j'évite boire d'alcool, de tabac et de se fatiguer, de ne pas se fatiguer trop. Mm-hmm. Ce médicament, on le prend une fois par jour avec beaucoup d'eau.
Et vous avez pris votre traitement sur une longue durée pendant 6 mois. J'ai une question à vous poser, Thierry. Vous les avez vraiment pris très très régulièrement? Vous étiez bien observant?
Oui, j'ai pris sérieusement, bien sérieusement, les médicaments, les prescriptions exactes. Je n'ai jamais raté même pas un jour pour les prendre. Je les suivais bien à la lettre, les prescriptions de médecins concernant tout ça.
Et le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Les médecins vous ont déclaré guéri?
Oui, complètement guéri. Après, combien? 2-3 tests simplement, c'est bon. Ils ont dit que j'étais bien guéri. Il y a plus de séquelles que ça.
Et après la maladie, vous avez changé certaines habitudes de vie, on va dire, en vous débarrassant de certaines mauvaises habitudes. C'est fini le tabac?
Oui, un petit peu. Je me suis changé un petit peu. Avant, je buvais un peu plus, pas mal d'alcool et tout ça. Et maintenant, j'ai diminué la consommation, et je me fais rarement boire d'alcool au moment des fêtes ou à l'occasion, tout simplement. Et un peu de sport le matin, un footing de 30 minutes à l'extérieur, mais pas dans la maison, tout simplement à l'extérieur, en marchant dans les routes ou à la campagne.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, on le comprend. Changer des habitudes, bien prendre son traitement et on guérit de la tuberculose. C'est un message très important pour toutes les personnes, par exemple, qui craindraient d'avoir la tuberculose et qui n'osent pas aller se faire dépister, bah, de peur d'entendre un mauvais diagnostic ou de penser que le traitement, c'est vraiment quelque chose d'impossible à faire. Non, on peut suivre ce traitement et on peut guérir, comme en témoigne justement Thierry à Madagascar. On va prendre un dernier auditeur en ligne, Bailo, qui est en Guinée, à Conakry. Bonjour Bailo, on vous écoute.
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Ok. Moi, j'appelle, c'est concernant un ami qui a été dépisté il y a 2 ans de cela. Mm-hmm. Il a fait un traitement de 8 mois. Mm-hmm. C'était la tuberculose osseuse.
Oui.
Oui. Avant, il ressentait des cervicalgies, une douleur au niveau du rachis. Oui, il avait une raideur de la nuque. Bon, il a fait son traitement de 8 mois, mais actuellement, il me dit que ça va, mais pas tellement comme il voulait. Parce qu'il a quelquefois des raideurs et une douleur intermittente. Parce qu'avant, il avait des douleurs continues au niveau du rachis.
Docteur Catherine Ewison, tout à l'heure, on a eu un auditeur après avoir été guéri de la tuberculose, William, à Kinshasa. Il avait des douleurs au poumon, mais c'est parce qu'il avait perdu l'activité pulmonaire. Dans le cas d'une tuberculose osseuse, s'il y a des douleurs après le traitement, comme ce que vient de nous raconter Bailo au sujet de son ami, est-ce que ça veut dire que il s'est débarrassé de la maladie, même, je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas répondre comme ça. Ou est-ce que c'est encore là des séquelles?
En fait, c'est une question très difficile. Merci de l'avoir posée. Comme j'avais dit avant, pour la forme extra-pulmonaire, c'est très difficile de confirmer que la maladie elle est bien prise en charge. Il n'y a pas une réactivation de la tuberculose. Donc, il faut quand même vérifier, si possible, avec un radio, voir un médecin, s'il n'y a pas une maladie qui réparait dans le même endroit. Par contre, comme pour les poumons, les os sont aussi abîmés par la tuberculose, donc c'est normal qu'il aura un peu de douleur après.
Mais quand même, aller vérifier, consulter, aller faire une radio. Bailo, votre ami, il est allé consulter ou il est juste pour l'instant au stade des douleurs?
Juste n'a pas encore consulté donc, après son traitement.
Donc d'après ce que nous dit vraiment le docteur Ewison, hein, il faudra lui conseiller d'aller consulter, d'aller refaire une vérification pour voir s'il n'y a pas de résurgence ou s'il s'agit de séquelles de sa maladie qui serait dans un autre cas, cette fois-ci guérie. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry. On va poursuivre cet échange avec une situation qu'on n'a pas encore évoquée directement. On a eu en ligne des personnes qui se sont bien soignées, justement. Pas de cas de ces fameuses tuberculoses multirésistantes, Catherine Ewison. Pour l'OMS, c'est vraiment une urgence, une crise de santé publique qui concerne l'Asie, l'Europe orientale, l'Afrique également. Et puis au-delà, il y a ce problème de résistance aux antibiotiques qui ne concerne pas uniquement la tuberculose. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des espoirs et des avancées en la matière?
Oui, après longtemps, après 60 ans, on a finalement eu deux nouveaux médicaments pour la tuberculose qu'on utilise pour la forme résistante. Comme avait évoqué Dr. Leinhardt, il y a aussi ces tests, l'Expresso Machine, qui nous permettent d'identifier les cas résistants beaucoup plus précocement. Donc, ces deux avancées à nous aident, mais on est loin d'avoir une test et aussi un traitement qui est court et efficace avec pas beaucoup les effets indésirables. Donc, on a beaucoup de choses à faire encore, mais au moins on a quelques outils à ce moment.
Alors, on voit quand même de toute façon, même dans les cas de tuberculose normale, 6 mois, c'est quand même des traitements quand même au long cours. Docteur Christian Liénard, une étude récente sur laquelle vous avez travaillé a montré l'efficacité justement de ce traitement plus court, y compris pour les cas de tuberculose multirésistante, 9 à 11 mois, efficace dans 80% des cas. Là, je vous cite les chiffres, je vous demanderai de réagir, bien sûr. Alors qu'avant, on allait jusqu'à 24 mois de traitement. On imagine qu'il y a la durée, mais quel est l'avantage, justement, de réduire le temps de la prescription?
Alors, c'est extrêmement important dans la mesure où prendre une série de médicaments pendant longtemps, c'est difficile, c'est long. Assurer une observance parfaite est toujours quelque chose de compliqué, mais on parle surtout de patients, les patients qui ont une tuberculose multirésistante sont des patients qui sont très atteints, très affectés, qui sont très malades, avec perte de poids, c'est extrêmement difficile à vivre. Et en plus, les médicaments sont toxiques. Donc, comme ces médicaments sont toxiques, ils ont des effets secondaires qui sont assez importants et qui compliquent terriblement la vie du patient. Le patient vomit, il est pas bien. Certains de ces médicaments doivent être donnés par voie intramusculaire, donc c'est une injection qui nécessite d'aller à l'hôpital tous les jours pour recevoir l'injection. Ces médicaments par injection ont une toxicité pour l'oreille et pour le rein, donc avec un risque d'insuffisance rénale et surtout un risque de surdité. Donc tous ces médicaments difficile à prendre, on peut arriver jusqu'à, le minimum c'est 4, mais on peut arriver jusqu'à 7 médicaments à prendre pendant 20 mois. Donc vous voyez, tout ça est difficile, compliqué, toxique, et ça demande aux patients de venir souvent à l'hôpital, etc. Donc ça s'accompagne de difficultés sur le plan de la gestion de la santé, mais aussi de difficultés socio-économiques pour le patient avec un traitement qui a beaucoup d'exigences et de contraintes et de conséquences sur le budget. Donc le raccourcir avec tout ce que je viens de dire, le raccourcir de 20 à 9 mois, c'est quand même une diminution assez extraordinaire. Alors c'est tout un travail qui avait été fait par l'Union internationale contre la tuberculose à Paris depuis plus de 10 ans, d'essayer de voir comment raccourcir sur le traitement de la tuberculose. Ils ont mis au point ce régime qui dure à peu près 9 à 11 mois, qui a été validé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce régime, effectivement, s'il est bien pris, permet donc de soigner, de guérir la tuberculose multirésistante de manière plus courte. Le seul problème, c'est qu'il continue à inclure ce régime, le traitement injectable, avec le risque associé, comme je le disais, de surdité et de problèmes rénaux. Donc maintenant, on essaye de travailler pour une réduction encore plus importante de la durée du traitement. Il y a beaucoup d'essais cliniques en ce moment en cours, dont l'un est géré par Médecins sans frontières d'ailleurs, où on essaye des traitements, des nouvelles combinaisons de traitements pour une durée de 6 mois et des régimes qui sont complètement par voie orale, c'est-à-dire en supprimant les injectables.
Alors, on évoquait tout à l'heure les disparités régionales. C'est l'Afrique qui compte la plus grande incidence, c'est-à-dire le plus grand nombre de cas rapportés à la population. On va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Gisèle Badoum, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes chef de service adjoint du service de pneumologie au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou. Est-ce que vous avez des chiffres qui concernent le nombre de cas de tuberculose dans votre pays, professeur?
Oui, le Burkina Faso a un certain nombre de cas de tuberculose. Et en 2018, nous avions 49 cas pour 100 000 habitants qui étaient estimés par l'OMS pour des cas réels estimés qui étaient de 31 pour 100 000 habitants. Donc, on note quand même qu'il y a un gap de 40% de patients qui n'ont pas été notifiés dans cette population.
Professeur Badoum, vous êtes responsable de l'unité des grands contagieux, hein, c'est l'expression au Burkina, au sein du service de pneumologie. En quoi consiste aujourd'hui, on va dire, la prise en charge type que vous proposez pour les malades déclarés?
Voilà, pour les malades déclarés, nous avons d'abord la prise en charge médicale et on parle du couple dépistage-traitement. Alors, ces patients, dès qu'ils sont suspects, ils sont dépistés. Donc, sur le plan de la clinique, on les examine et on demande des examens complémentaires pour confirmer la tuberculose. Et c'est à ce moment qu'on met en marche le traitement médical. Et Dr Liena vous a largement parlé de ce traitement médical dont le Burkina Faso également dispose. Et nous avons également la prise en charge psychologique parce qu'il faut dire que c'est une maladie qui est assez déprimante pour les patients. Et il y a cet appui psychologique qui est mis en place. Le patient se sent entouré par sa famille et par le personnel de santé. Nous avons également la prise en charge sociale parce qu'on sait que c'est une maladie qui déprime le patient sur le plan fonctionnel. Et en ce moment, c'est des patients qui se sentent diminués au sein de la société.
Diminués parce qu'ils perdent certaines capacités aussi en raison des effets secondaires de ce traitement très lourd et puis aussi peut-être en termes simplement d'angoisse pour se projeter sur l'avenir et du regard aussi que la société continue de porter sur cette maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent, ce qu'on désigne sous le terme de stigmatisation, professeur Badoum, quand on est, on disait avant, tuberculeux? Est-ce qu'on emploie encore ce terme de tuberculeux qui a déjà quelque chose de stigmatisant?
Oui, c'est vrai que ce terme n'est plus employé. On parle de patient atteint de tuberculose parce que c'est vraiment stigmatisant.
On détache l'humain de la maladie à chaque fois.
Exactement. Exactement.
Et quand un cas est déclaré, comment ça se passe? Est-ce que vous recherchez ce qu'on désigne comme les cas contacts, on va dire, cet environnement qui est susceptible d'avoir été mis en relation et donc qu'il y ait une contagion?
Ah oui, la recherche des cas contacts est systématique. Et elle se fait tout d'abord par l'agent de santé, mais qui se fait accompagner par des membres de la famille, qui, eux, connaissent peut-être un peu plus l'entourage. Et on a mis vraiment l'accent au niveau national. Le Programme national de lutte contre la tuberculose a mis l'accent sur ces cas contacts. On les appelle cas contacts parce que c'est eux qui sont en contact avec le malade atteint de tuberculose. Et on les recherche aussi bien dans l'entourage proche du malade, qu'aussi au sein du personnel, partout où le patient est passé, il faut rechercher ces cas-là.
Est-ce que dans votre CHU, vous êtes confronté à des formes multirésistantes, pardon, professeur Badoum?
Oui, il faut dire que le CHU Yalgado, c'est un des points de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Mmh. Et depuis une quinzaine d'années, on prend en charge ces types de patients. Alors, ils sont référés par les centres périphériques dans notre structure sanitaire et ils sont pris en charge du début jusqu'à la fin du traitement.
Ça veut dire que quand dans un centre communautaire, un centre de soins, le traitement habituel n'a pas fonctionné, on les adresse vers votre structure où là, on va vraiment cibler ces cas particuliers.
Exactement, c'est ça.
Alors, qui assume le coût financier de ces traitements, professeur Badoum?
Alors, le coût financier est assuré essentiellement par l'État burkinabé.
Donc c'est une prise en charge publique.
Bien sûr, avec l'aide de partenaires, oui, avec l'aide de partenaires financiers, mais c'est essentiellement l'État burkinabé qui supporte l'achat des médicaments, l'achat des réactifs pour le dépistage.
Professeur Gisèle Badoum, est-ce que vous avez des projets, on va dire nationaux, des projets proprement burkinabés en matière de recherche dans le cadre de cette lutte contre la tuberculose?
Oui, d'abord, nous avons des projets de recherche parce que nous recherchons d'abord. Nous recherchons tout d'abord actuellement, je vous ai parlé du gap qu'on a de 40%. Mmh. Alors le principal projet actuellement qu'on a, c'est la recherche de ces cas, des cas non dépistés, parce qu'on se dit 40% dans la population, c'est beaucoup. Et donc actuellement, on a cette politique de recherche active des cas contacts qu'on a mis en place. On a également aussi la recherche de la tuberculose et du VIH, parce qu'on s'est rendu compte que ces deux comorbidités, docteur Liénard et docteur Ilisson en parlaient tout à l'heure, et on continue toujours de rechercher ces cas parce que ce sont des patients que nous on appelle potibacillaires. Ça veut dire qu'ils ne produisent pas beaucoup d'expectorations et lorsqu'on recherche la tuberculose chez ces types de patients, on ne les retrouve pas toujours facilement. Et l'appareil dont le docteur Liénard parlait, de test expert, nous en disposons aussi au Burkina. Et ça, c'est un examen qui permet maintenant de dépister précocement les cas de tuberculose.
Donc vous avez
chez les patients atteints de VIH.
Donc vous avez ce matériel de haute technologie. Est-ce que vous avez tout ce qui va avec justement? Il n'y a pas de problème d'acheminement d'électricité et surtout de maintenance de ces appareils parce qu'il faut les garder en forme aussi ces appareils pour pouvoir traiter un maximum de patients.
Donc, heureusement, on n'a pas de problème de réactif. On n'a pas non plus de problème de maintenance parce qu'on a des partenaires qui nous appuient. Donc pour l'instant, on arrive à faire fonctionner ces appareils.
C'est très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations, professeur Gisèle Badoum. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint du service de pneumologie au CHU Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
C'est très intéressant, docteur Catherine Ewison. On vient dire, quand on pense recherche, on pense souvent tube à essai, on pense test. Et là, on voit bien qu'en matière de recherche pour la tuberculose, il y a vraiment une dimension sociale. C'est aussi aller rechercher les patients cachés, là où ils sont. Et c'est très important aussi, justement, pour éviter la contagion.
Oui, oui, la recherche de contact, on les appelle, les gens qui étaient en contact proche avec les patients atteints de tuberculose est très importante. Et même on va plus loin dans certains pays, on fait une recherche active à l'échelle de communautaire. Ça veut dire on met en place un système de radio de poumons et on fait un radio à tout le monde.
Systématiquement.
Donc c'est ça qui est nécessaire de vraiment diminuer le tuberculose qui est caché dans la communauté et que nous empêche d'adresser vraiment l'épidémie aujourd'hui.
Alors on a vu avec le cas du Burkina, prise en charge publique des traitements, docteur Catherine Ewison, est-ce qu'il y a malgré tout des endroits dans le monde quand on est atteint le financement du traitement, c'est un obstacle justement à la prise de ce traitement?
Absolument, il y a des dépenses avant d'être diagnostiqué avec le tuberculose, suivant de quand on est diagnostiqué, on est pris en charge pour le traitement, par exemple. Mais avant d'être diagnostiqué, on trouve que les patients passent à un médecin à l'autre, un laboratoire à l'autre, pendant longtemps.
Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un manque d'informations?
Parce que les symptômes sont souvent pas très spécifiques à la tuberculose. Donc, ils toussent, mais il y a beaucoup de maladies avec ces problèmes. Ils ont une fièvre, donc une perte du poids. Donc, souvent, le patient lui-même ne se rend pas compte que ça pourrait être une tuberculose. Mais aussi, les médecins, après la troisième fois, ils voient un patient, ils commencent à dire, ah, peut-être c'est une tuberculose. Donc, oui, c'est un manque d'information. Mais aussi, c'est un accès à ces tests. On avait bien entendu il y a un accès dans certains pays, mais aussi au niveau central. Mais quand on va plus loin dans le pays, les patients, ils n'ont pas accès.
En milieu rural.
Exactement.
Justement, docteur Christian Liénard, on entend qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est notamment ce qui a été entendu lors des dernières réunions qui s'étaient passées à l'ONU à New York. Pas assez de moyens pour lutter contre la tuberculose. Quand on entend que les patients sont pris en charge de façon gratuite, enfin pas tout à fait, il y a un coût pour les États, il y a un coût pour les institutions internationales, mais qu'est-ce que ça veut dire, pas assez de moyens pour lutter aujourd'hui contre la tuberculose?
Cette absence de moyens, elle existe à plusieurs niveaux par rapport à la prise en charge des patients. Il est sûr que la plus grosse part, comme on a eu l'exemple avec le Burkina Faso, est assurée par les États, donc ce qui est très bien. Les États s'arrangent pour pouvoir, par leur propre budget et parfois avec l'aide internationale, pour payer les médicaments et s'assurer que ces médicaments sont accessibles au niveau le plus périphérique pour être donnés aux patients. Donc ça, c'est une bonne chose. Cependant, il faut s'assurer que cette prise en charge soit totalement pérenne, qu'il n'y ait pas de variation, qu'il n'y ait pas de modification au niveau de l'accès aux médicaments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il faut s'assurer aussi au niveau le plus périphérique de l'accès au diagnostic. Et comme on a mentionné, cette machine, sont des machines qui ont des coûts. Donc c'est un coût donc accru par rapport aux États. Et il faut que ces machines soient disponibles le plus possible. Donc s'il y en a que quelques-unes au niveau d'un État, ça ne suffit pas. Il faut augmenter, n'est-ce pas? Donc il y a un passage à l'échelle nécessaire. Donc ça, cela aussi, ça a un coût. Donc ça, c'est au niveau des coûts de la prise en charge des patients. Où l'insuffisance réside de manière essentielle maintenant, c'est par rapport à la recherche. On estimait en 2017 que la recherche pour la tuberculose, dans le monde entier, il y avait à peu près 650 millions de dollars investis dans le monde, aussi bien sur le plan public que le plan privé, dans la recherche sur la tuberculose, alors que les estimations qui ont été faites, c'est
Christian Liénard, il y a eu une coupure, donc on n'a pas bien entendu, on vous écoute.
Voilà, donc on estime à peu près 650 millions de dollars l'investissement public et privé dans la recherche sur la tuberculose actuellement dans le monde, et les estimations sont qu'il faudrait à peu près 2 milliards de dollars pour pouvoir trouver des meilleurs moyens diagnostiques, des meilleurs traitements plus efficaces et plus courts, et surtout, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, un vaccin qui soit meilleur que le BCG. Le BCG est très bien et très efficace pour l'enfant, ça c'est important de le garder en mémoire, mais on peut trouver des vaccins qui soient plus efficaces sur la prévention à long terme de la tuberculose.
Donc, merci beaucoup, docteur Liénard. Hélas, le temps nous manque. On l'a donc compris, il faudrait 3 fois plus d'argent pour financer efficacement cette recherche et cette riposte à la tuberculose. Christian Liénard, médecin infectiologue, épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Merci beaucoup à vous, docteur Catherine Ewison, spécialiste de la tuberculose chez Médecins Sans Frontières. Centenaire donc de la création de la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, anniversaire et cet événement, eh bien pour l'occasion, organisation d'une COP humanitaire pour faire un état des lieux, également tracer des pistes face aux enjeux du changement climatique en termes de santé. Pour en parler, on vous retrouve, Jean-Jacques Eledjam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Croix-Rouge française. Nous avons enregistré cet entretien il y a quelques jours. C'est à Cannes que se déroule donc cet événement jusqu'à demain. Alors pour commencer, de quel constat êtes-vous parti pour organiser cette rencontre, cet événement ?
C'est tout simplement parce que la santé et les changements climatiques sont devenus le plus grand défi public du XXIe siècle. On connaît les incidences, les effets sur la santé humaine. On a aujourd'hui des projections qui sont alarmantes. Donc il fallait qu'on se saisisse de ce sujet, comme on l'a déjà fait d'ailleurs en d'autres temps.
Alors justement, vous parlez de ces projections de l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, des chiffres très alarmants. Jean-Jacques Eledjam, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé cite entre 2030 et 2050, les changements climatiques seront responsables de plus de 250 000 décès supplémentaires à travers le monde. C'est un chiffre relativement alarmant. Et quand on s'adresse à la Banque mondiale, eh bien, ces effets de changement climatique sur la santé pourraient plonger 100 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2030.
Alors donc cette rencontre de Cannes COP humanitaire, quels acteurs vont être réunis et autour de quel rendez-vous justement l'événement est-il organisé ?
Eh bien, les spécialistes, ils sont internationaux, ils sont mondiaux. Vous avez cité l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation médicale mondiale, l'ANSET est là, les groupements inter-États sur le climat sont là. Et puis il y a les experts de terrain. Plus de 60 sociétés nationales, et en particulier des sociétés nationales comme les îles Marshall, par exemple, qui sont très sensibilisées au problème puisqu'ils sont les premières et ils seront les premières victimes. Et ce sur lequel je voudrais insister, c'est que nous avons, non pas parallèlement, mais à l'intérieur de cette conférence, une conférence jeunesse, c'est-à-dire intéresser les jeunes à ces différents problèmes, parce que ce seront les premiers effecteurs, en quelque sorte, de ces nécessités, ces obligations de résilience.
Avec justement toutes ces questions qui les concernent forcément directement. Merci infiniment, hein, Jean-Jacques Eledjam, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Croix-Rouge française, centenaire des fédérations de Croix-Rouge. Très bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Assez tous à Maquée, Ophélie Hassan, Didier Bleu. Demain, nous allons parler du sommeil des tout-petits quand bébé dort mal. Quel conseil, quelle explication, quelle réponse surtout. On attend bien sûr toutes vos questions sur notre page Facebook et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.